Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 49.
Et donc un numéro avant le 50.
Ouais. Le 50 où on a prévu rien du tout.
Non.
D'ailleurs, on a prévu de pas faire de 50.
Voilà, exactement. On va passer.
C'est-à-dire que la semaine prochaine, c'est le 51. Voilà.
Oui. Et puis on va faire
un épisode
même un
51... qu'on fera bourré, d'ailleurs.
Exactement. Et un 51.1. Et on aura un 52.3 aussi. Bon. Voilà, c'est dit.
Ces annonces sont peut-être vraies ou pas.
À voir.
Tu verras dans les semaines qui viennent.
Ouais.
Tu vas bien, Benny?
Ouais, j'ai un trou dans le bide. Je peux pas expliquer trop pourquoi, mais je t'expliquais en antenne. Et voilà.
Oui, je sais. Que veux-tu? Ça t'apprendra à essayer de faire des séjours avec Alan Ripley dans l'espace.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça.
Encore une fois, la machine à dédé a déconné, quoi.
Ouais, on m'a extrait un truc qui était pas beau, quoi.
C'est la machine à dédéconner, quoi.
Exactement.
Ouais, t'as vu, je suis en forme sur la blague.
C'est formidable. ça va être intergalactique, cet épisode.
Oui, et c'est peu de le dire, puisque nous avons aucun épisode qui se passe dans l'espace.
Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Pas de Nova, pas de Gardien de la Galaxie, en plus, pas de Thanos.
Bah, ça risque pas. Nova, Gardien de la Galaxie, ça risque pas. On aurait pu faire Annihilators, mais non.
On aurait pu faire du Secret Avengers, puisque ça s'est déjà déroulé dans l'espace, souviens-toi.
Il n'y en avait pas cette semaine.
Non.
Mais il y avait Annihilators cette semaine.
Bon. Et il y a aussi des news cette semaine.
Il y a aussi des news.
Beaucoup de news indé cette semaine. On commence avec Jonathan Hickman qui va écrire et dessiner un nouveau créateur owned chez Image.
Il est dessinateur aussi ?
Eh oui, eh oui.
Alors là, je suis surpris. Alors,
enfin, selon les infos qu'on a, c'est Bleeding Cool qui nous dit ça. Donc, pour le moment, on va les croire. Peut-être qu'ils ont fait une erreur sur leur annonce, mais en tout cas, ils devraient écrire et dessiner Feel Better Now. Alors, Feel Better Now, qu'est-ce que c'est? C'est sur l'histoire d'un groupe de psychiatres qui tendent des pièges à leurs clients, à leurs patients.
Ok.
Alors, a priori, ce sera vraiment de l'humour noir, hein, ce sera assez drôle. Assez sombre, mais assez drôle.
Ça peut être intéressant.
Ça peut être très intéressant. On continue toujours chez Image avec un autre projet, cette fois-ci de Scott Snyder. Donc, on a vraiment sorti les grands noms quand même.
Ouais, hein, les grosses révélations, ouais.
Ouais. Avec sa nouvelle série, Severed, avec Scott Tuft en co-scénariste et Attila Futaki au dessin. Alors, je ne connais pas du tout.
Moi non plus.
Dire que ça ne me dit rien. Toujours est-il que l'histoire se déroulera en 1916 et que ça suivra les traces d'un garçon de 12 ans qui est à la recherche de son père. Et ce sera une histoire horrifique.
Donc avec sûrement des liens avec la Première Guerre mondiale.
Alors peut-être, peut-être. En tout cas, là, on voit une espèce de vieille baraque sur la couverture, avec une main qui déchire la page, qui déchire l'écran. Bon, c'est assez énigmatique, mais ça pourrait être pas mal, Scott Snyder qui s'essaye au genre horrifique.
C'est prévu pour quand?
Alors, ça démarre en août. Est-ce que je l'ai précisé pour le précédent? Je ne sais plus.
Non, je ne crois pas.
Eh bien, c'est très bien, parce que je ne sais plus. Je ne l'ai pas. Alors, c'est pour bientôt. Bon, de toute façon, on en reparle très vite. En tout cas, en août, Scott Snyder chez Image avec Severed. On continue avec le retour d'un héros que tu ne connaissais pas, je crois. C'est un héros de Steve Niles chez Dark Horse. Alors, c'est le fameux Cal McDonald, au fait, qu'on appelle Criminal Macabre.
Non, j'ai juste entendu parler du truc, mais je ne connais pas.
Alors en fait, il est apparu dans les années 90, ça fait bien 2 ans qu'il avait disparu. Au début, il était publié chez Arkane Comics, enfin dans l'autologie Arkane Comics, et puis ensuite dans Dark Horse Presents. Mm-hmm. Et donc là, il est de retour pour le Free Comic Book Day Dark Horse, qui sort aujourd'hui même.
Oui,
donc
nous enregistrons samedi.
Voilà, si vous voulez découvrir Criminal Macabre, eh bien vous pouvez d'ores et déjà le choper dans les comic shops qui fournissent donc ce comics gratos.
Qui est couplé, je crois, avec Baltimore Plagueship.
Exactement, exactement. Donc c'est au fait 12 pages de Criminal Macabre. Alors, scénarisé par Steve Niles, mise en image par Christopher Mitten.
D'accord.
Et en couleur par Michel Madsen, une équipe que je ne connais pas, mais qui avait déjà travaillé sur le personnage, me semble-t-il. En juillet, il y aura coécrit avec Eric Powell, Criminal Macabre The Goon.
D'accord.
Donc ça pourrait être très intéressant, toujours avec la même équipe de dessinateurs. Okay. Et en octobre, nous aurons No Peace for Dead Men, un one-shot toujours de Criminal Macabre avec la même équipe, et la sortie des deux omnibus Criminal Macabre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série, bah ce sera le moment de s'y intéresser. Voilà.
Je sens une petite pique à mon encontre.
Voilà, non mais moi non plus, hein, je découvre ce personnage, je le connaissais très très peu.
C'est un gros retour en force, hein, quand même.
C'est un gros retour en force, ouais. Dark Horse vraiment essaye de capitaliser, de ressortir ce personnage, de le remettre sur le devant de la scène. Mais en même temps, Steve Niles, bah voilà, c'est toujours intéressant, quoi. Monsieur Horreur, ouais. On continue chez Dark Horse, si je ne me trompe pas, puisque Mike Mignola a annoncé la suite d'Hellboy in Mexico. Ça s'appellera Hellboy House of the Living Dead, avec toujours Richard Corben au dessin. Alors, on change de maison d'édition. On va passer chez Aspen, donc on reste quand même dans l'indé, avec un teaser Broken Pieces par Marc Roslan et Mika Kaneshiro au dessin. Alors Aspen va proposer donc cette petite série, puisque ce sera 6 numéros, dont un numéro 0, ça démarre en août. Et le slogan c'est « What is lost in life is found in death ».
Ok.
Alors ça a l'air aussi assez, horrifique. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais en tout cas, Aspen, c'est un label...
Le label de Michael Turner, quoi.
Voilà, mais que je connais très peu, finalement. J'ai lu très peu de choses sorties de chez eux. Et Broken Pieces a l'air quand même assez intéressant, donc peut-être qu'on le chroniquera dans un Comics Weekly.
Peut-être.
Ou que Sam et Nono nous feront un Unspoken, que sais-je. On va passer à DC. Alors DC, c'est toi qui m'as trouvé cette news hier. Bravo, Steve. Donc,
je me rappelle déjà plus ce que c'est.
Eh ben si, Marc Andrieco Billy Tucci qui vont bosser à partir du numéro 14 sur Birds of Prey pour deux numéros. Ça va réintroduire les personnages de Phantom Lady et de Black Hawk, je crois qu'elle s'appelle.
Mm-hmm. Lady Black Hawk, quoi.
Lady Black Hawk. Deux personnages, donc la première est apparue en 1941, donc il y a un bail, hein, c'était durant la Seconde Guerre. Ça appartenait au label, c'était pas DC Comics justement, Quality Comics, voilà, Quality Comics.
Que DC a acheté ensuite, je crois.
Que DC a acheté ensuite pour avoir les droits de ce personnage. Et pendant des années, en fait, on a retrouvé différentes incarnations de ces personnages-là. Et maintenant, ces deux auteurs vont nous les ressortir pour... deux épisodes de Birds of Prey. Alors, Phantom Lady se joint à la partie. Et est-ce qu'elle va rester justement dans le cast ? Eh ben, surprise, on verra ça. Donc, je l'ai dit, hein, c'était en juillet.
1941. Ah oui, oui. Oui, en juillet, oui.
Oui, si c'est en
pour Birds of Prey numéro 14.
Sinon, ce serait pas dans les news, hein, Steve. Hein, faut suivre quand même, hein, parce que si ça datait de 1941.
C'est la machine ADD, ça m'a perturbé.
Voilà. Et transition. Birds of Prey, toujours, Black Canary et Zatanna seront dans un graphic novel de Paul Dini et Joe Quinones qui s'appellera Bloodspell et le projet avance. On a pu voir quelques crayonnés sur Internet.
Sympathique. Donc,
bah oui, un graphic novel sur Zatanna et Black Canary, ça peut être aussi très très très...
Et puis par Joe Quinones, quoi.
Et Paul Dini, s'il vous plaît. Donc voilà. Bon, c'est tout pour DC cette semaine, pas grand-chose. On passe chez Marvel. Et cette semaine chez Marvel, c'était branle-bas de combat sur l'univers Ultimate.
Donc,
encore un reboot de l'univers Ultimate, avec plusieurs annonces. Donc pour faire très vite, Jonathan Hickman et Esad Ribic vont reprendre les commandes de Ultimate Comics Ultimates, avec un S, donc la série des Ultimates, comme son nom l'indique. Il n'y en aura qu'une, a priori en tout cas. Elle sera composée de Nick Fury, Iron Man, Thor, Spider-Woman et Hulk, Bruce Banner.
D'accord.
Pas de Captain America d'annoncer. Où est-il ? Est-ce qu'il va disparaître ? La question reste posée. Le premier arc s'appellera The Republic is Burning et ça fera suite à l'arc Ultimate Fallout avec The Death of Spider-Man. Ultimate Comics Spider-Man, lui, redémarre avec Brian Bendis encore une fois, donc il reboot encore sa série et Sarah Piccelli au dessin. Ça commencera en septembre.
Jonathan... Ça devient compliqué parce que on a été jusqu'à un certain chiffre, ensuite on a rebooté, ensuite on a repris la numérotation au numéro 150 et là on va s'arrêter pour rebooter encore.
Eh oui.
Et c'est oui. Compliqué.
Comme j'ai rebooté d'ailleurs, j'ai rebooté au moins autant de fois mon internet aujourd'hui que Bendis a rebooté sa série. C'est dire. Et je vous assure que je l'ai rebooté un certain nombre de fois. Jonathan Hickman, à nouveau, sera cette fois-ci avec Rafa Sandoval au dessin sur Ultimate Hawkeye, donc
intéressant.
Une mini-série, par contre, hein, en 4 épisodes, on va pas faire une série, un ongoing sur le personnage non plus, 4 épisodes tout de même, bon bah lié au relaunch des Ultimates.
C'est intéressant comme choix de personnage.
C'est intéressant, d'autant que, rappelons-le, Ultimate Hawkeye va apparaître dans le film Avengers, dans quelques années, je ne sais pas si ce sera 2012, 2013, mais en tout
c'est
cas...
2012.
A priori, oui, c'est 2012. Normalement, c'est 2012. En tout cas, donc, il est prévu pour être dans les films, donc il n'est pas très étonnant qu'on fasse le focus sur ce personnage et qu'il apparaisse de plus en plus dans les titres Ultimate, notamment puisque bah, la gamme Ultimate inspire pour beaucoup les films. Oui. Également, Ultimate X-Men, Ultimate Comics X-Men, puisqu'ils appellent tout ça, ils appellent toujours ça Ultimate Comics. Donc, bon, jusqu'à maintenant, appelons-le comme ça. Hein. Nick Spencer sera au scénario, Paco Medina au dessin. Et ce sera l'équipe donc de Kitty Pryde, Bobby Drake, Johnny Storm, Rogue et Jimmy Hudson. Tout ça, c'est des personnages qu'on a pu voir dans Ultimate X. Et on nous annonce aussi Iceman, Jean Grey, Storm, Colossus et Nightcrawler. Alors Nightcrawler, normalement, est décédé. Donc peut-être un nouveau Nightcrawler. Peut-être qu'il sera introduit dans Ultimate X très prochainement.
Alors, ce que je comprends pas, c'est que tu as annoncé Bobby Drake et Iceman.
Oui, alors... Petite erreur de ma part, je pense que de toute façon, c'est la même personne, tu fais bien de me le dire. Effectivement, Bobby Drake étant l'alter ego civil d'Iceman, donc ça ne change rien à mon avis, il s'agit
d'un personnage. Ne suivant pas énormément l'univers Ultimate, peut-être que c'était deux personnages différents, c'est pour ça que je me posais la question.
Je ne crois pas, c'est déjà assez compliqué comme ça, donc n'en rajoutons pas, je ne pense pas que ce soit le cas. En tout cas, voilà, c'est tout le chantier mis en ce moment en avant par Marvel autour de l'univers Ultimate. Bah écoute ta réaction, j'ai envie de te dire, hein, après tout ça.
C'est bien. C'est bien qu'ils essayent de sauver le label, puisqu'on sait très bien que le label est un petit peu en perte de vitesse. Donc moi je dis pourquoi pas. Et puis c'est voilà, ce sont des gros noms, Jonathan Hickman, Nick Spencer, Brian Michael Bendis. Franchement, j'ai envie de dire que demander de mieux, quoi. Au moins, il y a une tentative.
Il y a une tentative surtout de pas que garder. Alors Bendis reste là, certes, mais il a fait ses preuves sur la série Ultimate Spider-Man, même si je la suis plus, ça plaît toujours, hein, ça marche toujours. Et Exit Millar, pour le moment, et bonjour Jonathan Hickman et Nick Spencer, qui sont quand même de nouvelles valeurs.
On a pu lire le Ultimate Thor de Jonathan Hickman, qui s'est plutôt pas mal débrouillé.
Oui, qui était sympathique.
Moi j'attends de voir. J'attends de voir d'un œil relativement intéressé.
Et oui.
Pour plus d'infos, je vous encourage à aller voir l'article de Sam.
Enfin, oui, les articles. Oui.
Je vous mettrai le lien dans les infos du podcast pour avoir... peut-être plus de précision, ainsi qu'un autre avis sur cette refonte finalement de la gamme Ultimate.
Dernière petite news indé qu'on a oublié, que j'avais sous le coude, enfin plutôt que Steve avait sous le coude et qui m'a reglissé. On va voir un one-shot Butcher Baker, Candlestick Maker. Alors, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien non, ce n'est pas la fameuse nouvelle série Image de Joe Casey, hein, si c'est bien ça, hein, c'est oui, bien Joe Casey. C'est au fait un one-shot The Boys, donc de Garth Ennis et de...
Darick Robertson,
voilà, j'ai oublié son nom en plus, alors que je venais de te le dire. Et voilà, donc c'est sur les origines de Butcher, hein, le leader de l'équipe des The Boys. Et bien sûr, bah, c'est un petit clin d'œil, un petit kick même, on va dire, hein, bien placé, à mon avis.
Garth Ennis, c'est toujours bien placé, les kicks.
Voilà, exactement, c'est toujours de bon goût. Butcher Baker, The Righteous Maker, hein, c'est bien ça, chez Image, la série donc de Joe Casey qui a débuté très récemment, et donc bah là, voilà, gros clin d'œil. Alors bon, ça fait toujours sourire, quoi, en tout cas.
Voilà, ouais, c'est assez drôle.
Et ça débarque bientôt dans les comic shops.
Ouais, on en parlera peut-être lors de sa sortie, si jamais il n'y a rien d'autre de plus intéressant à faire cette semaine-là, bien évidemment.
Tout à fait.
Pour terminer, un petit point sur la Comic-Con du 30 juin au 3 juillet, Palais des Expos Paris-Nord-Villepinte. On le savait déjà depuis quelques semaines, l'invité principal, l'invité d'honneur, c'est J. Scott Campbell.
Voilà.
Et la Comic-Con a révélé le nom d'un des premiers artistes US à venir sur la Comic-Con. Et là, c'est quand même une petite tuerie. Hein.
Bah, c'est assez surprenant en fait. Vas-y, annonce-le, je te laisse.
Salvador Larroca.
Salvador Larroca, et oui, le dessinateur de Invincible Iron Man, entre autres.
Ces derniers temps, oui, c'est sûr. Oui, voilà. Mais qui est passé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Et qui a changé son style. Rappelle-toi, Extreme X-Men, radicalement différent de ce qu'il fait maintenant. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est un artiste totalement différent de Scott Campbell finalement. Oui. Scott Campbell a un style très cartoony, Salvatore La Rocca, c'est du pratiquement du photoréalisme, ça plaît pas à tout le monde.
Aujourd'hui, oui, parce qu'à l'époque, c'était pas forcément ses premiers travaux étaient pas forcément très photoréalistes.
Les premiers travaux étaient bien plus Scott Campbellisant que ce qu'il fait maintenant.
J'aime beaucoup l'adjectif.
Non, mais c'est assez intéressant en fait. L'opposition des deux dessinateurs est assez assez intéressante. Bon, bah, enfin en tout cas, voilà quoi. Encore un grand nom et ça annonce moult files d'attente devant sa table.
Et oui. Et alors là, ça va être quand même très très bon parce que si tous les autres invités sont du même calibre, ça risque d'être assez monstrueux.
Ouais, ouais.
En tout cas, J. Scott Campbell, Salvador La Rocca, voilà. Sans, je ne parle même pas de tous les invités de la Weep Agency qui sont tous aussi des très bons dessinateurs. En termes d'artistes US, ouais. On a quand même deux gros noms.
Oui, bah
c'est sûr, on en a d'autres à venir, bien évidemment.
Oui, deux gros noms, et gageons qu'il y en aura peut-être d'autres. En tout cas, qui dit mieux, les paris sont tenus. Hein, on va voir dans les prochaines semaines. Qui encore va être invité à cette Comic-Con, mais voilà, en tout cas là ça promet.
Ah, ça promet. Amenez vos comics à vous faire dédicacer.
Oui, et espérez peut-être avoir un petit dessin, quoique.
Un petit sketch, peut-être.
Un petit sketch. Un petit Iron Man par ultra détaillé par Salvador La Rocca, qui vous demandera, d'attendre tout le week-end, je pense. Au moins.
Donc réservez vos places à l'avance.
Ouais. Ouais.
Pour être sûr de pouvoir. Avoir accès à tout ça et puis surtout éviter les files d'attente trop longues.
Ouais, et bah venez tôt, hein, parce que c'est toujours l'effervescence, ça attire beaucoup de monde, et on espère cette année d'ailleurs que ce sera encore plus de monde encore dans la Comic Con que les années précédentes.
Voilà. En tout cas, l'artiste allée se remplit de semaine en semaine, et les noms sont de plus en plus prestigieux, c'est très très bon. On peut s'ajouter à ça, d'accord, ok, c'est pas grave.
Ouais, ça me fait rire ça.
Et maintenant, on va passer à notre double review de la semaine. La double review, c'est Moon Knight numéro 1. Brian Michael Bendis au scénario, et Alex Maleev au dessin et à l'ancrage, bien sûr. Une putain de team, franchement.
Ah bon, oui. Enfin,
une team qu'on a l'habitude de voir travailler ensemble.
Oui.
Putain de grosse team, quoi. C'est genre Daredevil, le Spider-Woman, voilà, quoi. C'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble.
C'est vrai, et sur un personnage...
Et puis Scarlett aussi, je crois.
Ouais. Moon Knight, qu'on essaye de relancer depuis des années, Davin Finch, si je dis pas de bêtises, était passé dessus.
Oui, et puis on avait eu la dernière version j'ai plus son nom, d'ailleurs, tiens. Voilà,
c'est pas Jimmy Francis Yu qui avait bossé dessus? Non.
Je ne sais plus qui était sur la dernière mini-série Moon Knight qui était parue en français il y a quelques mois.
Oui, je m'en rappelle de cette mini-série, qu'on a chroniqué d'ailleurs en plus. Oui.
Mais c'est une honte de ne pas retrouver le scénariste. Non, je vais rien dire parce qu'en fait je ne sais pas.
Ouais.
Bref, ça commence bien la review, t'as une magnifique review. Que vaut cette nouvelle série Moon Knight? Enfin, on va faire le pitch, et puis on donnera notre impression après.
Tout à fait, allons-y.
Alors, Mark Spector se retrouve à Los Angeles.
Alors, ne pas confondre avec Win Spector, hein, ça n'a rien à voir. Mark Spector, c'est l'alter ego de... Enfin, l'un des alter ego, d'ailleurs.
Oui, l'un, oui.
De Moon Knight, puisqu'il y en a plusieurs, en plus, le bonhomme. C'est assez compliqué, normalement, mais là, c'est assez clair, en fait.
Oui, là, c'est très clair. Hein. Mark Spector est devenu quelqu'un de respectable. Il est devenu producteur, ainsi que créateur de séries télévisées à LA.
Ouais.
Et sa série s'appelle Legend of Khonshu.
Comme c'est étrange.
Une série, en fait, sur lui.
Oui, ouais. Sur Moon Knight, au fait. Que les gens ne connaissent pas. Enfin, le commun des mortels ne connaît pas encore les origines de ce personnage.
Pas forcément très bien, c'est sûr. Il avait été pas bien médiatisé quand il avait été accusé pour meurtre, etc. Mais
ouais. Mais tout ça en oublié, puisque c'est un reboot. Donc, faisons table rase du passé. Et d'ailleurs, ça m'a fait marrer d'ailleurs le début, puisque ça commence sur les origines du Moon Knight, et je me suis dit, oh là là, Bendis nous ressort encore les origines du Moon Knight, et pas du tout, au fait.
Et ça, c'est vachement bien placé, quand même.
Ouais, c'était marrant, ça.
C'est une très bonne façon de faire des origines. C'est des origines, mais finalement de façon différente, et je dois avouer que là, chapeau.
Ouais.
J'ai été surpris. Parce que moi aussi, je me suis dit, allez, c'est reparti pour les origines, j'espère que ça n'a pas duré tout le numéro. Et ben en fait, non, pas du tout. C'était simplement la fin du premier épisode pilote de la série.
Oui, puis c'était vachement poussé, en plus, les dialogues.
Bien sûr, mais bon, enfin...
Poussif même, d'ailleurs, je dirais plutôt.
Ouais. Ben, je me dis que voilà, ça aurait pu être ça tout le long de l'épisode, quoi. Ben, tant mieux.
Heureusement,
Tant mieux.
heureusement que non.
Très bonne surprise de ce côté-là. Pendant donc la soirée où le pilote est diffusé à la presse à Hollywood, Mark reçoit un appel et se rend sur le toit car Captain America, Spider-Man et Wolverine sont là pour lui demander de veiller sur Los Angeles. Alors par contre, j'ai un petit doute. Quel Captain America c'est?
Alors, j'ai regardé son costume, c'est l'ancien costume.
Mais oui, moi aussi j'ai l'impression que c'est Steve Rogers.
Oui, et c'est là que je ne comprends pas.
Ah, un petit
Quand est-ce que
décalage
ça se
temporel.
situe exactement?
Bah, on sait pas trop, mais en tout cas, on sait très bien que maintenant, Steve Rogers va reprendre le costume au mois de juillet, d'ailleurs, je crois. Qu'on n'est pas très loin.
Ouais, mais alors, enfin, ce qui m'a un peu pas énervé, hein, mais ce qui m'a un petit peu saoulé, quoi, on va dire, c'est que Bendis tombe à nouveau dans ses écueils, c'est-à-dire qu'il nous ressort le personnage de Wolverine, Cap et Spider-Man. On se demande même
Ah
pourquoi
bah.
ils vont se déplacer tous les trois. Hein.
Mais on se demande pourquoi il n'y a pas Iron Man et Thor. Parce que là, il ferait une
Oui, voilà.
grosse
Il... Ouais,
franchise au complet, quoi.
exactement, oui.
Bon,
En
à
tout
la
cas.
rigueur, on va dire que comme Moon Knight fait partie des Avengers, voilà. Hein?
Ouais. Non, mais justement, au début, je me suis dit, mais est-ce qu'il se rappelle au moins qu'il fait déjà partie d'une équipe de Avengers? Et donc après, c'est bien dit.
Ouais, c'est bien rappelé. Il lui demande de veiller sur Los Angeles car il y a une recrudescence de criminels. Et bon, il accepte et il commence à veiller sur la ville. Un peu à la manière d'un Daredevil, finalement. De toute façon, ça fait partie de cette gamme de relance des street level characters.
Un peu à la manière d'un Batman à la Marvel qui veillerait sur Los Angeles.
Bien
Puisque
sûr, de toute
rappelons qu'il est
façon.
quand même millionnaire, hein, ce
Oui.
bonhomme quand
Et
même.
puis, Moon Knight, Batman, voilà. On
Ouais.
sait très bien la filiation. Il tombe sur un deal d'armes entre Mr. Hyde, enfin, qui n'est pas présent en personne, mais qui a envoyé un de ses sbires, et un mystérieux Kingpin, on va dire, de Los Angeles.
Alors j'ai pas compris si c'était pas Mr. Hyde justement.
Ben non, Mr. Hyde, c'est celui qui a envoyé le gars
Est-ce
sur le
que
bateau.
à la fin de l'histoire, il se dit oui, tu t'es coltiné avec Mr. Hyde. Mais alors.
Non, 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 c'est pas Mr. Hyde, hein. Enfin, ou alors en tout cas, il a vachement changé, je l'ai pas reconnu sous l'écran de ma livre.
Ouais, mais je sais pas. J'ai un doute. Moi, je l'ai compris comme ça en tout cas.
Parce qu'apparemment, le gars lui demandait tout le temps de payer ce qu'il devait à Mr. Hyde.
Oui, mais est-ce qu'il parle pas à la troisième personne? À la Hulk, tu vois ce que je veux dire?
Ah ouais. Je sais pas du tout.
Et pendant un moment, j'ai eu très peur. J'ai cru que c'était Sentry.
Ah
Parce que sous les crayons de, on va en parler tout à l'heure, mais sous les crayons d'Alex Maleev, voilà, qui a changé un petit peu son trait, son style, j'ai vraiment cru à Sentry, qui revenait d'entre les morts d'un seul coup.
Voilà, le deal se passe mal, et celui qui voulait acheter les armes arrive en personne, enfin en personne, nous on le voit pas en tout cas, il a quand même une puissance phénoménale.
Ouais.
Alors qui est-ce, on ne sait pas. Et finalement, on s'aperçoit de ce que c'était comme deal d'armes, surtout. Et là, ça soulève encore plus de questions, parce que bah, c'est une grosse, grosse, grosse menace.
Ouais.
C'est pas simplement des petits fusils d'assaut.
Ouais, c'est-à-dire que Bendis prépare son gros event, je pense, là-dessus.
Oui. C'est-à-dire que voilà, Moon Knight fait appel aux Vengeurs parce qu'il va avoir besoin d'eux et c'est clair. C'est clair. Parce que si Moon Knight règle ça en solo, moi j'y crois plus, quoi.
Ouais. Alors, moi j'allais dire, à la lecture de cet épisode, il y avait un truc qui m'intéressait chez Moon Knight, c'est que c'est vraiment un personnage perturbé, et à la rigueur, un jour, Marvel pourrait en faire une sorte de Némésis. Némésis, donc le personnage
Oui,
de
de
chez
Green
Icon.
Arrow.
Un espèce de Batman fou, quoi, en fait. Une espèce de version qui pète les plombs. Et j'ai vraiment cru, avec cette intrigue, que à la fin, Bendis allait nous sortir un truc du style, bah au fait, c'est Moon Knight. Le fameux... comment dire?
Le fameux Kingpin de
Oui, le
Wolverine.
fameux Kingpin qu'on voit pas. C'est-à-dire que comme le mec est schizophrène, il aurait complètement pété les plombs. Et on s'en rendrait compte à la fin
Bah,
et...
c'est pas possible puisqu'on le voit
Et
pris dans
oui.
cette scène d'action.
C'est vrai, c'est vrai. Mais j'avais pensé à une direction comme ça à la lecture de cet épisode, et je me suis dit, tiens, si Bendis part là-dessus, ce serait vraiment intéressant. Bon, finalement, c'est une direction un peu plus classique. Hein. Pour le moment, Moon Knight collabore avec les Avengers et un super-héros comme les autres, quoi.
Alors c'est là qu'il y a quand même pour moi aussi un petit souci, c'est que bah, il va être obligé de faire appel aux Vengeurs, et pour une relance de titre Street Level Characters, il y a quand même un petit problème, quoi. On sait très bien que les Street Level Characters agissent plutôt en solo,
Ouais.
plus dans leur coin, et là finalement,
Et c'est le
c'est pas le
problème.
cas.
C'est le problème du scénariste, puisqu'il a tellement l'habitude d'utiliser 36 000 super-héros à la fois, que là il nous place à nouveau les Vengeurs. Et en plus, ça fait double emploi, puisque Moon Knight était, alors je sais plus s'il l'est toujours, mais était en tout cas dans les Secret Avengers.
Ouais. Il y a d'autres petits défauts, hein, notamment toute cette scène de dialogue entre les deux gangsters, qui ouais. est vraiment longue et qui me paraît surtout forcée dans les dialogues.
Ouais, après ça dépend des jours.
On sent Bendis qui veut faire du polar à la Powers, mais qui peut pas, parce qu'il peut pas mettre des fuck à tout, dans toutes les phrases, et donc il meuble.
Bah, il était bon sur Daredevil, par contre.
Ouais, mais là, je sais pas, là, ça paraissait forcé, quoi.
Ouais.
On ajoute à cela, en plus, le style très particulier de Maliv sur Moon Knight, un Maliv que je n'ai absolument pas reconnu.
Qui m'a fait penser, sur certaines pages, à du Sal Buscema de la fin des années 90. Enfin, milieu années 90.
C'est pour dire à quel point on le reconnaît pas.
Avec des coups de crayon, limite, des petits gribouillages en fond. Enfin, c'est pas moche, hein. Loin de là.
Non, mais, c'est pas moche, mais...
Ça change radicalement son style, et je ne le reconnaissais pas, quoi.
On est loin de ce qu'il avait fait, par exemple, sur Spider-Woman, quoi.
Ah, totalement. Mais Spider-Woman, c'était, alors là, trop travaillé, justement. Ah, ils n'ont pas tenu la cadence, et voilà. Oui, par contre, c'était beau.
Et là, là, je trouve que c'est un Maliv en petite forme. Alors, peut-être est-ce volontaire, c'est ce que tu me disais avant qu'on enregistre. Peut-être qu'il a volontairement voulu changer son style. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ça m'a surpris de pas voir du Maliv. Enfin, je m'attendais pas à ça. Donc, tout ça mis bout à bout fait que l'épisode est pas mal, mais c'est pas exactement ce que j'attends d'un street level character. Et du coup, c'est pas non plus ce que j'attendais des dessins, et ça fait que c'est qu'un check-it, quoi. Bon.
Alors moi, je vais carrément, et c'est surprenant parce que c'est quand même Bendis que je porte dans mon cœur depuis des années, je vais quand même dire un bon check-it à tendance bail. Parce que je suis quand même assez intéressé par l'intrigue. J'ai hâte de voir où ça va.
Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que la dernière série Moon Knight, elle avait commencé un peu en street level character, et puis on avait fait appel à pas mal de guests, et puis ça avait pas tenu. Et j'ai peur que ce soit la même chose. Mmh. Et je commence à en avoir marre de me lancer dans des titres qui s'arrêtent à bout de 6 épisodes, quoi.
Mais comme on se rappelle plus de qui était sur cette série, et qu'on peut pas vraiment comparer, eh bien...
Non, mais c'est ça le problème, c'est que les séries qui s'arrêtent au bout de 6, moi j'en ai ras le bol, quoi.
Ouais. Bon, là, il y a des chances que ça dure un peu plus, quand même, vu la team.
C'est ce qu'on pensait aussi sur Spider-Woman, hein. Et ça s'arrête au bout de 7.
Non, mais cela dit, c'était surtout parce que le dessinateur, donc Alex Maliv, en avait ras-le-bol. Puisque, rappelle-toi, hein, c'était sorti en...
Bien sûr, mais les chiffres de vente étaient loin d'être bons. Hein. On se rappelle que ça a commencé à 45 000 et c'était, ça finit vers 16 000, quoi.
Ouais. Mais néanmoins, moi, ça m'avait beaucoup moins accroché. Hein, parce qu'on venait encore à Secret Invasion, etc. C'était... J'avais moins accroché à l'histoire que là, quand même.
Donc voilà. Pour toi, un check-it à tendance buy. Pour moi, un simple check-it. Faites-vous votre avis et puis donnez-nous votre avis. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Pourquoi surtout? Parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Donc voilà, faites-nous partager votre vision de ce relaunch de Moon Knight.
Et peut-être aussi de votre vision de la suite, puisqu'on va passer au review solo. Pas de double review solo aujourd'hui, ni
non,
de
non,
solo point. Double, enfin triple XL piqué, machin.
Pas à chaque fois. Voilà. On commence cette semaine avec Sweet Tooth numéro 21, donc chez Vertigo. Jeff Lemire au scénario, dessin, ancrage, il fait tout.
D'accord.
Souffle l'étrage.
Alors Sweet Tooth, une histoire de dentiste.
Pas du tout.
Pas du
pas
tout.
Pas du tout. Mais j'en avais déjà parlé, tu as des...
Mais oui, en plus.
Oh, c'est pas bien.
Ouais.
C'est une histoire qui se passe dans un monde post-apocalyptique dans lequel il y a eu une maladie qui a décimé un petit peu tout le monde.
Une rage de dents.
Les enfants, des enfants naissent mutants, mais pas mutants au sens X-Men, mutants au sens on a notre ADN qui est partagé avec un animal.
Ah oui, d'accord.
Mmh. Donc on se retrouve avec des enfants chiens, des enfants chats, des enfants lapins, etc.
Des entrechats.
Oulala, oulala. Et donc le garçon que l'on suit, Gus, dans cette histoire, celui qui est surnommé Sweet Tooth, est un garçon élan, ou reine, je sais pas trop.
D'accord.
Enfin, il a des bois sur la tête, quoi.
D'accord.
Donc, c'est assez particulier, bien sûr. Bon, là, on a attaqué, avec ce numéro 21, un nouvel arc qui a commencé dans le 20. L'arc qui s'appelle Endangered Species, qui va vraiment faire avancer l'histoire. Encore une fois, qui va vraiment faire changer de direction au final. Effectivement, il va y avoir des morts.
D'accord.
Dans cette équipe. Ils vont découvrir pas mal de choses. Pour ce numéro-là, en tout cas, encore une fois, on a un numéro, en quelque sorte, assez expérimental, puisque à chaque fois, Jeff Lemire essaye de nouvelles choses. sur chaque épisode. Il fait des mises en page particulières, il va chercher à faire passer de l'émotion tout en calmant la sauvagerie de l'épisode, puisque bah, c'est quand même un épisode, là encore une fois, assez violent. Et là, on a un découpage en deux, par la hauteur. C'est-à-dire que en haut de la page, on suit Gus et Jeppard face à un grizzly.
D'accord, donc c'est un découpage vraiment particulier. Et
Et
tu me
en bas,
disais...
on suit bah, les trois filles qui sont arrivées dans ce projet Evergreen,
Ouais.
dans ce bunker, avec ce gars nommé Walter Fish, qui vit là, tout seul, depuis longtemps, et qui leur explique, bah, qui leur explique ce qu'il a vécu, en fait, comment il a réussi à trouver ce bunker, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc.
Donc vraiment l'auteur s'inspire de l'alcool aussi.
Salaud.
Puisque non non mais non mais je dis ça parce que tu as dit il a commencé dans le vin.
Ah oui, non, le... Oui, l'arc.
Oui non mais non.
Oh là là. Polisseur de review.
Oui, voilà, c'est cela.
Bah, moi, je trouve que c'est encore une fois super magique, comme d'habitude. Chaque épisode est véritablement hyper poétique. Bah, c'est la touche Jeff Lemire en solo, quoi.
Oui, comme sur Mister Nobody, quoi, par exemple.
Voilà, par exemple. Ou encore ce qu'il avait fait à l'époque sur Essex County.
D'accord,
D'ailleurs,
que je n'ai pas lu, mais je te crois.
dans l'épisode 19, on avait un petit flashback sur la vie de Lucy. Ça, le personnage rappelait énormément des personnages d'Essex County.
D'accord.
C'était assez marrant. Bref, en tout cas, dans cette histoire, on voit que l'un des membres du groupe est atteint par cette maladie. Et donc on sait très bien que cette maladie, personne n'en échappe. Donc il y a forcément au moins une personne qui va mourir.
Ou pas d'ailleurs, peut-être que ce sera un gros turning point et qu'ils vont trouver la solution.
C'est peu probable. C'est peu probable. C'est toujours superbe, toujours, comme je dis, plein de poésie, tout en étant très violent.
C'est pas assez déprimant comme série quand même, parce que là, ça me semble assez... C'est pas très joyeux, quoi.
Oui et non, enfin c'est vraiment particulier. Je pense que c'est vraiment une série qu'il faut lire pour comprendre. Enfin, c'est très difficile à expliquer.
Ouais.
Puis bah soit on accroche, soit on n'accroche pas du tout.
À lire avec un bon verre de vin comme Sic, alors.
Je vous encourage à vous procurer le premier TPB si vous ne connaissez pas la série, qui est relativement peu cher.
D'accord,
Et
très
puis
bien.
ensuite voyez si ça vous plaît ou non, quoi. Vous êtes parti en tout cas pour une longue histoire, enfin longue, là on en est qu'au numéro 21. Apparemment Jeff Lemire penserait arrêter sa série aux alentours du 30e épisode. Peut-être que ça continuera, mais il a prévu son plan sur à peu près 30 épisodes. Voilà, c'est une histoire, c'est véritablement les montagnes russes émotionnelles.
D'accord. Et a priori, c'est aussi une série qui ne connaîtra pas pour le moment de sortie française.
Pour
C'est
le
un
moment,
peu
en tout cas,
dommage.
c'est pas prévu.
Ok.
En tout cas, bon, vous l'aurez compris, un bail.
Un bail. Et je vais passer peut-être à ma... À moins que tu aies encore autre chose à
Ah
rajouter.
non, vas-y, vas-y, enchaîne.
Fear Itself! Mais pas Fear Itself numéro 2. Ah, vous y avez cru. Non, Fear Itself Spider-Man. Alors, qu'est-ce donc Fear Itself Spider-Man? Et est-ce que c'est lié vraiment à Fear Itself? Au scénario, Chris Yost. Au dessin, Mike McCone.
Ça
Donc
va?
sur du Spider-Man et même au niveau scénaristique,
Ça va, oui.
ça va, ouais.
Bonne équipe.
Bonne équipe. Alors qu'en est-il dans les faits? Eh ben, les gens ont peur, hein. Les New Yorkais ont
Définitivement.
peur. C'est Fear Itself. Donc crise de panique générale, angoisse générale. On voit sur les premières pages plusieurs personnes qui pètent les plombs pour diverses raisons. Une femme qui va faire une fausse couche, un homme qui va être licencié, quelqu'un qui va se faire expulser de chez lui parce qu'il n'a pas payé son loyer, etc.
Encore
Donc
assez souvent des problèmes socio-économiques, hein.
voilà, des problèmes socio-économiques et bah, ça commence sur un accident, un télescopage, même un carambolage, voilà, de voiture avec un homme d'origine, alors je sais pas s'il est pakistanais, je ne sais plus, j'ai oublié exactement de quelle origine il était, cet homme-là, mais toujours est-il qu'il est pris par les autres habitants de New York pour un terroriste.
Bien sûr.
Voilà, bon, cliché un peu, hein, quand même, s'il en est. Il manque de se faire tabasser, Spider-Man vient à sa rescousse, et Spider-Man se rend compte que bah, c'est pas la première fois de la journée qu'il doit venir en aide à quelqu'un pour des raisons un petit peu particulières, et il se dit que bah, tout New York a pété les plombs, que les gens ont peur, ils sont pris de panique. Il essaye de joindre Tante May, il n'y arrive pas, donc en plus lui aussi est assez paniqué, aussi gagné par la peur. Et bon voilà, bah, au fait, durant tout l'épisode, il intervient à divers endroits, dans diverses circonstances. Il est attaqué par les flics, donc là c'est l'éternel cliché, voilà, les flics ont peur, du coup ils s'en prennent à Spider-Man parce que c'est forcément lui qui est responsable de tous les maux de la ville. Franchement, c'est pas passionnant, hein. Je pense que je n'arrive pas à t'accrocher avec ça.
Non, du tout.
Voilà. Donc, sur 22 pages, c'est cela, et arrive à la fin, en fait, le retour d'un ennemi de Spider-Man. Je dirais pas un ennemi classique, mais un ennemi de Spider-Man. Personnellement, je vais le dire franchement, hein, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. C'était une bonne équipe, mais là, c'est vraiment un travail de, c'est un travail de commande de Marvel qui a dû dire à Chris Yost, écoute, tu vas nous faire un petit tie-in à Fear Itself. En plus, tie-in vraiment de loin, hein, puisqu'on ne voit que Spider-Man. Il n'est pas fait allusion aux autres super-héros.
Ça, c'est peut-être pas plus mal.
Ouais. Ça rappelle en plus les meilleures heures de Maximum Carnage, avec tous les New Yorkais qui pètent les plombs et qui commencent à se taper dessus. Donc inutile de dire que c'est ironique, hein, ce que je dis. Hein. Maximum Carnage étant peut-être ce que j'ai lu de plus mauvais sur Spider-Man depuis toujours, et Dieu sait si j'ai quasiment tout lu. Donc,
à vous, One More Day, c'était bien.
Oui, One More Day, c'était pire. C'est vrai, parce que One More Day a eu plus d'impact sur les séries que...
Et puis il y avait One Moment in Time.
Et One Moment in Time aussi, à mettre dans le même sac. Mais toujours est-il que c'est assez mauvais, assez inintéressant, et même avec la fin, avec le retour de cet ennemi-là, ça rajoute pas grand-chose.
Un bail absolu, donc.
Donc, un pass absolu, oui, merci Steve. Bah, reste les dessins de McCone, qui sur Spider-Man sont toujours assez sympas, mais bon, ça sauvera pas les meubles.
Tu l'avais pas précisé, mais c'est une mini en 3.
C'est une mini en 3, oui tiens, bah, je croyais que c'était en 5, donc tu vois, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que ce soit en 3. C'est aussi intéressant que Spider-Man Secret Invasion, par exemple, dont on avait parlé il y a des mois de ça.
C'est dire.
Voilà. Et peut-être pourrais-je préciser que j'avais le choix, enfin j'ai lu deux choses au fait. Je me suis laissé tenter par Avengers Academy Giant Size,
oui,
qui fait 80 pages quand même, et qui coûte pratiquement $8.
Bon, 7,99, hein. C'est 8.
Voilà. Donc c'est 8. Grosso modo, bah c'est une histoire sympathique où l'Avengers Academy et les Young Allies, qu'on voit aussi, enfin en une partie, font face à Arcade, mais 80 pages de ça uniquement, c'est bien mince quand même. Parce qu'au fait, c'est un épisode qui aurait pu se faire en 22 pages, concrètement. Voilà.
D'accord.
À 22 pages d'ailleurs, ça aurait été plus réussi qu'en 80. En 80, on a le temps de se lasser. Hein.
C'est Paul Tobin au scénario qui écrit les Young Allies.
Voilà. Donc Paul Tobin, au dessin, je ne sais même plus, je l'ai pas sous les yeux, le comic, donc je peux pas vous dire ça. En tout cas, ce n'est pas Mike McCone, justement, dont on vient de parler, puisque d'habitude il est aussi sur Avengers Academy. Ce n'est pas lui pour ce Giant Size, mais en tout cas, ça vaut pas $8, malheureusement, donc pour moi, ce sera deux passes, en plus, dans la foulée.
Ah bah, voilà. Et donc, du coup, tu me passes la parole.
Oui, oh là là.
Je suis en forme de la main.
Oh là là.
Pour ma dernière review de la semaine, X-Men Prélude to Chisholm.
Tu me préviens quand t'as fini, hein, je vais sortir là, parce que là je peux plus. ça devient irrespirable avec des vannes pareilles.
C'est donc une mini en 4 qui va annoncer le futur événement des X-Men à venir cet été, Chisholm. Donc schisme en français.
Ah oui, pas Shazam, hein, parce qu'on a failli penser. On a failli entendre Shazam en fait.
Et donc, je m'étais juré de ne pas relire un épisode de lui. Et pourtant, malheureusement, je n'avais pas fait gaffe que c'était lui au scénario.
Et c'est qui lui ?
Paul Jenkins.
Ah, Paul Jenkins, tiens donc, je ne savais pas que c'était lui qui écrivait ça en plus.
Oui, mais moi non plus. Et Roberto de la Torre au dessin et à l'ancrage. Alors, je vais vous dire tout de suite, je ne sais absolument pas quelle note lui donner. Je ne sais pas si c'est un check-it, si c'est un pass, ou si c'est un bail. Franchement, la lecture me... Voilà. En gros, on apprend qu'une menace va anéantir Utopia. Tous les X-Men sont sur le pied de guerre.
On ne sait pas quoi.
On ne sait pas quoi. Et on ne saura pas quoi dans cet épisode. Donc, n'attendez pas, on ne saura pas.
D'accord.
Et donc, les avis sont partagés. Certains veulent s'enfuir d'Utopia. D'autres veulent rester, quitte à mourir et se battre, pour défendre ce qu'ils ont. Et on a Cyclope dans son coin qui regarde par la fenêtre. Pendant ce temps-là, on a des flashbacks de Xavier, avec Scott plus jeune. Et voilà, on voit Scott discuter avec Magneto,
oui.
On ne sait pas ce qu'ils se disent. Puis on a une discussion entre Scott et Xavier, et Scott, Xavier lui dit que bon voilà, il est le fils qu'il n'a jamais eu, quoi, vraiment. Il a déjà eu un fils, il a eu Légion, mais enfin, pour lui, c'est vraiment comme son fils, Scott. Et que quoi qu'il arrive, il le suivra dans sa décision. Quelle qu'elle soit, il le suivra. Car c'est lui maintenant le leader de la communauté mutante, et voilà, bon, Xavier a fait...
monde honorable.
Voilà, il est clair maintenant, c'est Scott qui dirige, et lui ne dirige plus. Voilà, alors c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Je ne sais pas où ça va.
Bah, ça, ça va dans la direction, en tout cas, de Scott, quoi.
Pour le moment, par rapport à ce qu'on sait de Shazam, oui, c'est clair.
Oui, c'est le parti pris de Scott, quoi, pour le moment, qui est exposé.
Le numéro 2, en tout cas, on a la preview de la cover, c'est Magneto.
D'accord, ça portera sur lui, au fait.
Voilà.
Donc sera peut-être l'autre côté de la balance.
Voilà, peut-être que saura-t-on enfin ce que Magneto et Scott se sont dit. Vu ce qu'on sait de Schism et compagnie, je pense que Magneto va sûrement dire qu'il faut fuir.
Surtout que Utopia prend l'eau. Donc
On verra bien. Honnêtement, je sais vraiment pas. Je vais dire check it, faites-vous votre avis, quoi. Là, je suis perplexe, au moment je ne sais pas où ça va.
D'accord.
Bah, c'est pas inintéressant, quoi. Mais c'est pas intéressant non plus. Je sais pas si j'arrive à te faire comprendre ce que j'ai ressenti.
Oui. Scott agit comme un petit grime.
Scott, oh là, c'est fou. Scott n'agit pas du tout dans cet épisode.
D'accord.
On le voit derrière sa
fenêtre. Comme d'habitude. C'est vrai que Scott.
On le voit regarder à travers une vitre et puis on voit des souvenirs.
Est-ce qu'on voit Emma Frost?
Oui, vite fait, les premières pages.
Bon, d'accord.
Il dit, oh là, il faut s'enfuir. On va être anéanti.
Ok, très bien. Bon bah ça me donne vachement envie. Décidément, alors là on est dans les reviews top moumoute aujourd'hui. Hein.
C'est clair. Non mais enfin, ce sera peut-être bien. Enfin peut-être que ça prendra son sens avec le reste de la mini, je ne sais pas. Mais en tout cas sur ce premier épisode, je ne sais vraiment pas quoi en penser. Quoi.
D'accord.
Je sais même pas si j'ai envie d'aller lire le 2. C'est ça qui est terrible. D'un côté j'ai envie, d'un côté j'en ai rien à foutre. Parce que je me dis que si c'est pour me retaper 22 pages comme ça, ça va pas servir à grand chose quoi. C'est essayer peut-être de mettre les choses à plat avant Schisme, au moins. Je sais pas. Peut-être que c'est bien pour des nouveaux lecteurs.
Mmh. On reste dans l'univers des X-Men.
Mmh.
Avec ma dernière review, Uncanny X-Force numéro 9. Ça faisait un petit moment qu'on en avait pu parler. Rick Remender au scénario, Billy Tan au dessin. Et bien m'en a pris de prendre ce numéro, puisque, en l'occurrence, c'est un one-shot. Enfin, c'est un stand-alone dans la série des Uncanny X-Force. Alors, resituons quand même un petit peu là où on en est. Archangel a pété les plombs, ça y est, on l'avait annoncé, ça s'est passé. Il a tué un homme alors que cet homme-là ne représentait pas de menace, directe en tout cas, et il l'a caché à ses coéquipiers surtout.
Oh le vilain.
Le vilain petit canard. Alors...
Oh là là.
Je sais pas pourquoi il dit ça.
Oui, je ne sais pas non plus.
Non plus. Je commence à dire des choses, peut-être que mon esprit est dicté par une force obscure. À mon avis, c'est forcément ça, hein, de toute façon.
Donc, Archangel en toi.
Est-ce que j'ai dit qui était au dessin? Oui, je l'ai dit.
Oui,
Billy Tan.
Billy Tan. Alors,
Billy Tan qui nous fait un peu plus de... Il a un style un peu plus peint, un peu plus peinture.
Un peu plus dans l'esprit de Canix, Mars, quoi.
Et exactement, voilà. Et là, ça commence sur un truc totalement différent. Docteur Nemesis revient sur Utopia au début de cet épisode. Mm-hmm. Il apporte une espèce de lettre à Magneto.
Ah, encore lui.
Voilà. Magneto l'a envoyé en mission, ce Docteur Nemesis. Mission que Docteur Nemesis a acceptée, donc il revient avec une lettre qu'il présente à Magneto. Et Magneto lui demande s'il est sûr de ça, il a l'air complètement désespéré. Donc, qu'en est-il? En fait, on a les réponses directement dans cet épisode, mais je vais pas les donner, évidemment. Sinon, ce serait trop facile. J'aime être machiavélique, c'est formidable. Il se passe quand même un gros truc que je peux dire par contre, sans spoiler trop, Magneto apprend, enfin s'est rendu compte de l'existence des...
De la sorcière rouge.
Non.
Non, pardon.
Non, de l'existence d'Uncanny X-Force, puisque je te rappelle que l'équipe est toujours une équipe...
secrète.
Secrète, voilà, même des autres...
Même Cyclope ne la connaît pas.
Voilà. Et donc Magneto, là, a appris leur existence, et c'est assez drôle, puisqu'il les attend dans leur base, et seul Deathlok était dans la base. Puisque Deathlok fait partie, maintenant, des Uncanny X-Force. Mm-hmm. Seul Deathlok était resté dans la base, et c'est assez drôle, puisque quand le reste de l'équipe arrive, et Deathlok est en train de voler, enfin de l'éviter, quoi, si tu veux, et Magneto, leur dit, effectivement, c'est pas en laissant Deathlok que ça allait m'arrêter, quoi. Puisque...
C'est clair. Surtout pas lui.
Oui, surtout pas lui, voilà, c'était pas celui qui le plus pratique pour garder la base de Magneto. Donc c'est assez drôle, il y a un petit peu d'humour, quand même. C'est un épisode qui se lit assez vite, cela dit. On comprend assez vite où ça va, quelle est cette nouvelle qu'a appris Magneto, et une nouvelle donc que au fait il demande à X-Force de régler ce problème, quoi.
D'accord.
Voilà. ce que lui a appris le docteur Nemesis, c'est bien Magneto a besoin d'X-Force pour le, comment dire, le...
Solutionner.
Le solutionner. Exactement. Très bon terme, d'ailleurs, en l'occurrence, avec cet épisode. Bon, c'est sympathique, ça révolutionne pas la série, hein, loin de là. C'est vraiment, si vous suivez activement cette série, et que vous devez rater un épisode, bah c'est celui-là, quoi. Si vous le ratez, c'est pas grave, vous allez pas en mourir non plus. C'est un bon épisode, mais c'est tout à fait dispensable. Cela dit, vu que c'est une bonne lecture, j'ai passé quand même un bon moment, je vais quand même mettre un bon check-it, allez, un bon check-it.
D'accord, très bien. La petite semaine, hein.
Ouais, petite semaine. Avant le numéro 50 de la semaine prochaine, alors, qu'est-ce qu'il va nous réserver? Est-ce que ça va être une bonne semaine?
Bah, on va dire qu'on a des choses de prévues.
Oui, voilà.
Puisqu'on a dit qu'on ne faisait pas de 50. Non, un épisode, un gros épisode vous attend, un épisode oversized. Je préfère prévenir d'avance, qui sera plus proche de l'heure et demie que de l'heure, je pense.
Bon, on verra en même temps, peut-être qu'il va durer 5 minutes, hein. Il suffit que l'un de nous soit pas d'accord sur une review, qui claque la porte, que Comics Weekly s'arrête à Vitam Eternam, enfin ce genre de choses.
On a déjà choisi nos reviews, on a du très lourd.
Ouais. Donc soyez là, enfin soyez là. De toute façon, on est multidiffusé, j'ai envie de dire.
Et puis qui sait, quelle surprise vous attendent pour ce numéro 50?
Waouh. Ne soyez pas tous contents, hein, voilà.
Surtout pas toi.
Oui, vous avez le droit d'être malheureux, oui, bah surtout moi. Surtout moi. Ouais, bah ouais, après une semaine pareille, petite semaine.
Je connais déjà ta review de la semaine prochaine et je suis sûr qu'elle sera bonne.
On verra ça. Mais le suspense est à son comble.
Bien, on se quitte comme d'habitude en refaisant le petit tour classique. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Le Twitter, c'est Media Comics. Et puis, les commentaires sont ouverts pour vos réactions.
Sont tout bleus, sont de toutes les couleurs.
Oui, merci. Merci de cette intervention fort utile et absolument indispensable.
Avec une belle liaison de ta part sur fort utile.
Bien sûr, normal.
Oui. C'est normal en plus, tout à fait, précisons-le, c'est très bien.
Du coup, tu m'as perdu. Oui, les mails, vous pouvez nous envoyer des mails. L'adresse, c'est podcast@comiccity.fr. Vous la connaissez.
Oui, mais pensez à faire aussi un petit tour chez nos camarades de Cables Chronicles, de Tirer les oreilles de Fuchs.
Bien sûr, vous allez retrouver ce mois-ci le Comic City Chronicles avec de gros débats.
Et oui, avec des gens donc de Cable Chronicles, évidemment, d'où le nom, puisqu'on est quand même allé chercher très loin.
Et donc, on va se quitter sur le traditionnel, le moment tant attendu.
Ou les, comme d'habitude, puisque n'ayant absolument aucune idée, comme d'habitude, je suis allé faire un tour, devine-nous, quand on n'a plus d'idée.
Dans la rue.
Enfin, en l'occurrence dans le back-office.
Sur le net.
Non, dans le back-office, comme d'habitude. Oui,
on va juste préciser le mot de la fin, pour ceux qui découvriraient le podcast et qui ne connaîtraient pas cette superbe rubrique.
Les mots de la fin, en l'occurrence, puisque on a encore du lourd dans les mots-clés, les mots de recherche, pour nous trouver avec, pour une fois, on parle de toi, Steve Fanboy... Attends, Steve Fanboy Green Lantern Comic City. Voilà, on parle de toi pour être un fanboy de Green Lantern.
D'ailleurs, quand j'enregistre, je me cosplay en Green Lantern, obligatoirement. Mais,
tout à fait, il met son costume Green Lantern, faudra un jour enregistrer en caméra. Vous verriez Steve avec, donc...
Non, mais c'est vrai que j'ai aujourd'hui un t-shirt vert du plus bel effet, et donc je pourrais être un Green Lantern.
Mais c'est pour ça que je disais que c'était tout vert tout à l'heure.
Ah, mais tu es magicien.
Ben, en plus.
Tu vois par ma webcam non branchée, ça me fait peur.
Alors, d'autres mots de recherche, allez, soyons fous. Elijah Wood éclate de rire.
D'accord.
Très bien.
Je ne sais pas comment on peut nous trouver comme ça, c'est pas grave.
Je ne sais pas non plus. Bon. Honey Bunny arrête de dire au fait. Ah bah, je suis désolé.
J'adore les gens, ils ont compris le principe et ils me font passer les messages comme ça.
Voilà. C'est peut-être toujours le même, le petit futé qui me laisse ce genre de message. Et ben alors, moi, je trouve je dis moins au fait que bref, je pense.
Allez, un petit secret de fabrique, j'en enlève certains.
Oui, en plus, ouais, mais tu t'en enlèves plus à toi qu'à moi, c'est évident.
Ah non.
C'est évident. Je serai, de toute façon, je suis de mauvaise foi jusqu'au bout, donc.
Eh bien, je t'enverrai bientôt un épisode non monté, et tu pourras t'amuser à le comparer avec un épisode monté, si tu as du temps à
perdre. Oui, mais tu auras fait exprès de les laisser dans l'épisode monté. Ou pas d'ailleurs. Bref, arrête de me perdre. autre mot très rapide, Spider-Man WC. Je crois que c'est une allusion à Davy Mourier. Je crois. Et enfin, Scout Satanique, bien entendu. Bien entendu, on adore nos amis les Scouts Sataniques.
Bien sûr.
Voilà, ce sera tout pour cette semaine.
Les Scouts Sataniques qui grôlent, bien évidemment.
Et exactement, qui font du pogo.
Qui font du pogo et qui, bien sûr, le soir, autour des feux de camp, font des messes noires en égorgeant des lapins. Et puisque c'est ce qu'on trouve dans la forêt, hein, je suis désolé.
En mangeant des bébés, qu'on ne trouve pas dans la forêt.
Bien sûr, bien sûr. Le traditionnel repas de bébé.
Oui, qui n'est pas constitué de petits pots.
Tu peux mettre des bébés dans des petits pots.
Non, mais enfin bon, bref. On s'égare juste un tout petit peu.
Mais non, pas du
tout. Mais pas trop.
Préparez-vous, puisque c'est, je pense, à peu près l'ambiance que nous aurons dans notre 50.
Ah oh, bah alors, ça va. Alors là, tu vas le vendre vachement bien, dis donc. Je pense que les fans seront au rendez-vous, et les autres aussi. À la semaine prochaine.
Eh bien, je pense, oui, qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Ciao, avec, bien sûr, notre peau de bébé.
Et notre petite... Bah, toi, tu peux parler avec ta barbe, c'est pas une peau de bébé, hein, que t'as.
Celle-ci, je l'ai pas vu venir.
Voilà. Tiens, mange-toi ça.
À la semaine prochaine.
Ciao à tous.